Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2010 et je me propose d'entamer avec vous un nouveau podcast. Ce podcast, je voudrais qu'il soit composé de quelques extraits d'un fascicule qui s'appelle L'America, édité par François Bunel. Alors voici quelques lignes de la préface. Donald Trump s'est lancé dans une nouvelle croisade, les grands espaces. Trop vastes, trop nombreux, trop peu exploités. En un an, le locataire de la Maison-Blanche a multiplié les décisions qui montrent à quel point sa politique est aussi une entreprise de démolition systématique de l'héritage environnemental américain. Construction au cœur des réserves naturelles d'un oléoduc géant allant du Texas au Montana. Extension des autorisations de forage au large des côtes. Amputation de moitié de deux monuments nationaux de l'Utah. Autorisation de chasser en Alaska le loup et l'ours, y compris lorsque ce dernier hiberne. Exploitation de terres inviolées dans le Wyoming ou en Californie après qu'on a découvert qu'elles regorgent de ressources naturelles, pétrole, gaz, schiste, etc. Et ce n'est qu'un début. Pour Donald Trump, l'environnement n'est pas un problème et les réglementations sont de trop. Plus que jamais, il se veut le porte-parole de cette société de consommation qui entend offrir tout et n'importe quoi à qui le demande. La nature, elle est au service de l'homme. Exploitons-la. Vous voulez vous y promener? Pas de problème. Parquez donc votre 4x4 climatisé flambant neuf, acheté à crédit au beau milieu de Monument Valley, Grand Canyon ou Joshua Tree. Traversez Yosemite ou Yellowstone dans votre mobilhome sous l'œil des rangers et ne sortez surtout pas de la route à Glacier ou Islands Royal. Vous risqueriez l'aventure. Voilà à quoi ressemble la nouvelle pastorale américaine, une nature sympa, cool, Disneylandisée, facile et accessible. Bien sûr, ce n'est pas Donald Trump qui a inventé la tendance actuelle à tout standardiser. Les pionniers dévastèrent déjà forêts et plaines pour dresser des clôtures, massacrèrent la prairie et privatisèrent le désert avant que l'on y bétonne des aires d'autoroute, assorties de KFC ou de McDo. Mais le signal de retour en arrière est donné. En abîmant les grands espaces, Trump s'attaque à ce qui est au cœur même de l'identité américaine, la vie sauvage. Je vais maintenant vous lire une nouvelle intitulée « Le loup habillé en loup ». Cette nouvelle a été écrite par Margaret Atwood, qui est une grande dame dans les lettres canadiennes. Margaret Atwood s'engage dans ses romans et ses essais en faveur de l'écologie et du féminisme. Son œuvre, qu'elle considère non pas comme de la science-fiction, mais comme de la fiction spéculative, a été couronnée par de nombreux littéraires dans le Man Booker pour le tueur aveugle. Elle est également l'auteur notamment de La Servante écarlate, Servante écarlate, écrite en 1985, de Captive, écrit en 1996, et plus récemment de C'est le cœur qui lâche en dernier, écrit en 2015. Elle publie ce printemps un recueil de nouvelles intitulé Neuf contes. Eh bien, voici l'un d'eux. Le loup habillé en loup. Quel est cet étrange moment historique? C'est l'un de ces moments où la Terre, qui, il y a encore peu, semblait suffisamment stable, avec les semis qui suivaient les moissons, les anniversaires qui se succédaient, etc. où la terre donc bouge sous nos pieds, et des vents puissants se lèvent, et nous ne sommes plus très sûrs d'où nous sommes, et nous ne sommes plus très sûrs non plus de qui nous sommes. À qui est ce visage dans le miroir? Pourquoi ces crocs poussent-ils dans notre bouche? Hier encore, nous étions remplis d'une telle bienveillance et d'une telle espérance. Mais maintenant, qu'en est-il? Les États-Unis sont en train de vivre un tel moment. Après l'élection de 2016, des jeunes de ce pays m'ont dit « C'est la pire chose qui nous soit jamais arrivée. » À quoi j'ai répondu à la fois « Non, en fait, il y a eu pire. » Et non, ce n'est pas le pire, pas encore. La Grande-Bretagne vit actuellement un moment difficile. Elle aussi, elle, avec beaucoup de pleurs et de grincements de dents. Et d'une façon moins dramatique, mais quand même, au vu de ces récentes élections, c'est aussi le cas de l'Allemagne. On pensait que la crypte était solidement verrouillée, mais quelqu'un avait la clé et a ouvert le caveau interdit, et qui sait ce qui va en sortir en rampant ou en hurlant. Pardonnez-moi de recourir à une telle image, aussi gothique, mais il y a des raisons de s'alarmer sur bien des plans. Chaque nation, comme chaque individu, a plusieurs personnalités. Une personnalité noble, celle dont elle aimerait croire qu'elle incarne réellement, et une personnalité de tous les jours, celle qui lui est bien suffisante pour franchir les semaines et les mois quand tout se passe comme prévu. Et enfin, une personnalité cachée, beaucoup moins vertueuse, qui peut jaillir dans des moments de menace et de rage et faire des choses innommables. Mais qu'est-ce qui provoque ces moments de menace et de rage? Ou qu'est-ce qui les provoque en ce moment? Vous aurez entendu de nombreuses théories à ce sujet, et vous en entendrez encore, sans doute beaucoup d'autres. C'est le changement climatique, diront certains. Les inondations, la sécheresse, les incendies et les ouragans affectent les conditions de l'agriculture. Et alors, il y a des pénuries de nourriture, et puis de l'agitation sociale, et puis des guerres, et puis des réfugiés, et puis la peur des réfugiés, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura assez à partager pour tout le monde. C'est le déséquilibre financier, nous diront d'autres. Trop peu de gens riches qui contrôlent une trop grande part de richesse mondiale. Et ils sont assis dessus, tels des dragons, sur leur tas d'or, et ils provoquent la grande disparité financière et du ressentiment. Et alors, il y aura de l'agitation sociale et des guerres ou des révolutions, et ainsi de suite. Non, disent d'autres, c'est le monde moderne. C'est l'automatisation et les robots, c'est la technologie, c'est l'Internet, c'est la manipulation de l'information et de l'opinion par une poignée d'opportunistes pour leur profit, l'armée de trolls et d'astroturfeurs, par exemple, qui se sont donné tant de mal pour influer sur les élections allemandes, et semble-t-il les efforts similaires des Russes aux États-Unis via Facebook. Mais pourquoi sommes-nous étonnés? L'Internet est un outil humain comme tous les autres. Haches, fusils, trains, vélos, voitures, téléphones, radios, films, tout ce que vous voudrez, et comme n'importe quel outil humain. Il a un bon côté, un mauvais côté, et un côté stupide qui produit des effets auxquels on ne s'attend pas au départ. Parmi ces outils figure peut-être le tout premier qui soit spécifiquement humain. Notre capacité narrative, permise par une grammaire complexe. Quel formidable avantage les histoires ont-elles dû nous procurer autrefois en nous donnant le moyen de transmettre des connaissances essentielles afin qu'on n'ait pas à tout redécouvrir par soi-même en tâtonnant. Les loups communiquent entre eux, mais ils ne racontent pas l'histoire du petit chaperon rouge. Les histoires peuvent-elles aussi avoir un beau côté, un mauvais côté et un troisième côté qui produit des effets inattendus? En tant qu'auteur d'histoire, je suis censé dire à quel point elles sont nécessaires, comment elles nous aident à nous comprendre les uns les autres, comment elles construisent l'empathie, etc. Et c'est vrai. Mais justement, comme j'écris des histoires, j'ai une conscience de leur ambiguïté et de leur danger. Disons simplement que les histoires sont puissantes. Elles peuvent changer la façon dont les gens pensent et sentent les choses, pour le meilleur comme pour le pire. Ainsi donc, quelle est l'histoire que nous racontons au sujet du moment présent et de ses tribulations? Quelle que soit la cause du changement que nous vivons, c'est le genre du moment où les lapins dans la prairie dressent l'oreille parce qu'un prédateur a fait son entrée en scène. Bientôt va venir un loup revêtu d'une peau de mouton, ou même un loup habillé en loup, et ce loup va dire « Lapin, vous avez besoin d'un dirigeant fort, et je suis justement celui qu'il faut pour ce poste. Je vais apparaître comme par magie, je vais faire apparaître comme par magie le monde parfait du futur, et des cornets de glace pousseront sur les arbres. Mais d'abord, nous devons nous débarrasser de la société civile. Elle est trop molle, elle est dégénérée, et il nous faudrait abandonner les normes de comportement qui nous permettent de nous promener dans la rue sans nous flanquer des coups de couteau. Et ensuite, nous devons nous débarrasser de ces gens. C'est alors et seulement alors qu'apparaîtra une société parfaite. Ces gens varient d'un milieu à l'autre et d'une époque à l'autre. Il peut s'agir de sorcières ou de lépreux qui tous deux ont été rendus irresponsables de la peste noire. Cela peut être des huguenots dans la France du XVIIIe siècle. Cela peut être des memnonites. Mais pourquoi pas vous ? Je demandais à un ami memnonite. Vous semblez si inoffensif. Nous étions pacifistes, m'a-t-il répondu. Dans un continent en guerre, nous donnions un mauvais exemple. Bon, toujours est-il que le loup conclut. Faites ce que je dis et tout ira bien. Défiez-moi, grrr, miam miam miam, vous serez croqué menu. Les lapins sont pétrifiés parce qu'ils sont terrifiés et désorientés, et le temps qu'ils comprennent qu'en fait, le loup ne leur veut pas du bien et qu'il a tout organisé uniquement au bénéfice des loups, il est maintenant trop tard. Oui, alliez-vous dire, nous le savons bien. Nous avons lu les vieux contes, nous avons lu la science-fiction, et nous avons même été mis en garde. Et ça, souvent. Mais quoi qu'il en soit, cela n'empêche pas toujours cette histoire de se rejouer dans les sociétés humaines encore et encore. Ici, je dois m'excuser auprès des loups. J'ai utilisé votre nom, mes chers loups, uniquement à titre de métaphore. S'il vous plaît, n'allez pas m'inonder de messages sur les réseaux sociaux tels que « espèce d'idiot humain privilégié ». Que sais-tu de la vie intérieure des loups ? Espèce de snob élitiste, anthropocentrique. Est-ce que tu t'es déjà trouvé avec une patte prise dans un piège ? Si nous n'étions pas là, vous seriez bientôt submergés par les chevreuils et les lapins. Et alors là, qu'est-ce que vous feriez, hein, dites-moi. J'accepte l'argument, et je sais que vous avez bon cœur, du moins avec les autres loups, ou en tout cas avec ceux de votre meute. J'ai l'occasion d'entendre votre musique polyphonique et je la trouve envoûtante. J'aurais peut-être dû parler de dinosaures. Mais ils auraient été moins bien compris et peut-être pas aussi distrayants. C'est toujours un aspect à prendre en considération. Pour les conteurs d'histoire, nous sommes une bande à l'esprit tortueux et enclin aux décisions frivoles. Cette petite fable que j'ai concoctée vient des profondeurs de mon passé, de l'époque où j'étais une petite fille vivant dans les étendues sauvages du nord du Canada, loin des villages, des villes et des cités, mais très près des lapins et des loups. Là-haut, quand il pleuvait, il y avait trois formes d'activité: écrire, dessiner et lire. Parmi les livres que j'ai lus, il y avait les contes de Grimm, dans leur version intégrale non expurgée, avec des yeux crevés à coups de bec et de souliers en fer chauffé à rouge. Mes parents l'avaient commandé par correspondance, et quand ils ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur, ils ont eu peur que ce livre puisse déformer l'esprit de leurs enfants. Il a probablement déformé le mien en m'orientant vers la carrière d'écrivain, car, sans les contes de Grimm, si habile, si prenant, si complexe, si effrayant, mais avec des notes d'espoir à la fin des histoires qui vous brisent le cœur parce qu'ils sont si improbables. Comment aurais-je pu écrire ? Vous savez que je vais dire ça. Comment aurais-je pu écrire La Servante écarlate, par exemple ? La couverture de la première édition aux États-Unis est suggestive. On y voit les deux servantes dans leur habit rouge, qui ressemble à deux petits chaperons rouges avec leur panier au bras. Derrière elles, il y a un grand mur de briques, comme le célèbre mur de Berlin. Et les ombres des deux femmes se projettent sur ce mur. Et ces ombres sont celles des loups. J'ai commencé ce roman à Berlin, Ouest, en 1984. Oui, George Orwell regardait par-dessus mon épaule, sur une machine à écrire allemande que j'avais louée. Le mur était tout autour de nous. De l'autre côté, il y avait Berlin-Est et la Tchécoslovaquie et la Pologne, que j'ai visitées tous les trois à l'époque. Je me souviens de ce que me disaient les gens et de ce qu'ils ne me disaient pas. Je me souviens de pauses significatives. Je me souviens que j'étais moi-même obligé de faire attention à ce que je disais, de peur de mettre quelqu'un en danger par inadvertance. Tout cela s'est retrouvé dans mon livre. Ce livre a été publié en 1985 au Canada, puis en 1986 en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Alors que ma règle avait été de rien mettre dans ce roman que des êtres humains n'aient déjà fait quelque part, à une époque ou à une autre, le livre a été accueilli par certains avec critique et incrédulité. Trop féministe, oui, avec toutes ces histoires de contrôler les femmes et leur corps, mais aussi trop invraisemblable. Jamais cela ne pourrait arriver là-bas, non pas aux États-Unis, parce qu'à l'époque de la Grande Guerre froide, ceci n'était-il pas considéré comme une puissance vouée à faire le bien ? N'était-il pas le symbole de la démocratie et de la liberté ? Mais si celle-ci n'était qu'imparfaitement pratiquée sur le terrain, face à des systèmes fermés comme celui de l'Union soviétique, l'Amérique était ouverte. Face à des tyrannies, à la hiérarchie sociale inflexible, l'Amérique promettait le rêve de chance égale pour tous, fondé sur le mérite. Mais si l'Amérique avait une histoire très sombre à surmonter, n'est-ce pas les idéaux ? Ouh, c'était bien cela. Eh oui. Mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, une trentaine d'années plus tard, ce livre fait son retour, parce que tout à coup il ne semble plus du tout une façon dystopique tirée par les cheveux. Il est devenu trop réel. Dans certains États américains, des silhouettes vêtues de rouge apparaissent dans des assemblées en protestation silencieuse, comme les lois qui y sont votées, en grande partie par des hommes pour contrôler les femmes, et dont l'objectif semble être de faire reculer l'horloge du temps pour revenir, si possible, au XIXe siècle. Dans quelle sorte de monde ces législateurs veulent-ils vivre? Ils en veulent un trait inégalitaire, la chose est claire. Un monde inégalitaire dans lequel ils auront eux-mêmes plus de pouvoir et les autres beaucoup moins. Si vous confiez aux fourmis la responsabilité de préparer le pique-nique, elles le réorganiseront à leur profit. Il n'y a pas de gens, seulement des sandwichs et des œufs durs et des cookies. Les fourmis, elles, savent au moins dans quel genre de monde elles veulent vivre. Elles ne s'en cachent pas. Les fourmis ne sont pas hypocrites. Dans tous les pays, les citoyens doivent se poser la même question. Dans quel genre de monde veulent-ils vivre? Possédant une tournure d'esprit plutonienne et sombre, je ramènerai la question à « veulent-ils vivre ?» Parce que, en prenant du recul, par rapport à notre perspective humaine, suffisamment de recul pour que les frontières entre les pays disparaissent et que la Terre devienne une petite bille bleue au milieu de l'espace, avec beaucoup plus d'eau que de terre, il devient évident que notre destin, en tant qu'espèce, sera déterminé par leur réponse à une simple question. Allons-nous tuer les océans ou pas? Si les océans meurent, nous mourrons avec eux. Au moins 60% de notre oxygène est fourni par des algues marines. Mais je vais essayer de ne pas trop vous déprimer. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. De brillants esprits sont déjà au travail sur ces problèmes. Mais en attendant, que peut faire un artiste? Au fond, pourquoi créer de l'art dans une époque aussi troublée? Et de toute façon, qu'est-ce que c'est que l'art? Parce que, et pourquoi devrions-nous nous en soucier? À quoi ça sert à apprendre, enseigner, nous exprimer, trouver la vérité, célébrer ou même dénoncer et maudire? Il n'y a pas de réponse universelle. Les êtres humains se sont adonnés aux arts, la musique, l'imagerie visuelle, la représentation théâtrale, ce qui inclut les rites et les arts du langage, dont la narration d'histoire, depuis qu'ils peuvent être reconnus comme humains. Les enfants réagissent au langage et à la musique, avant même de savoir parler. Ces capacités semblent innées. L'art que nous produisons est spécifique de la culture qui le produit, de sa localisation géographique, de son système d'énergie, de son climat et de ses sources de nourriture, et des croyances attachées à tout cela. Mais jamais nous n'avons pas produit d'art. Pendant bien des siècles, l'art a été produit au service des dirigeants, les rois, les empereurs, les papes, les ducs et autres gens du même acabit. Mais depuis la période romantique et post-romantique, on a attendu autre chose de l'artiste. On s'est dit qu'il ou elle devait dire la vérité aux puissants, raconter les histoires qui ont étouffé, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et de nombreux écrivains l'ont fait. Cela leur a fréquemment causé des ennuis et leur a parfois valu d'être fusillés. Mais ils se sentaient obligés de créer. Ils ont écrit en secret. Ils ont réussi à faire sortir leurs manuscrits d'endroits dangereux au péril de leur vie. Ils sont arrivés de très loin, comme les messagers du livre de Job, presque défaillant d'épuisement pour dire « Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Pour t'en apporter la nouvelle, pour en apporter la nouvelle à toi, cher lecteur, au singulier. Un livre est une voix à ton oreille. Le message, pendant que tu le lis, est pour toi seul. Lire un livre est certainement l'expérience la plus intime que nous puissions avoir de ce qui se passe dans l'esprit d'un autre être humain. L'écrivain, le livre et le lecteur, dans ce triangle, le livre et le messager. Et les trois participent à un seul acte de création, comme le compositeur, l'exécutant de la symphonie et l'auditeur sont tous des participants. Le lecteur est le musicien du livre. Quant à l'écrivain, son rôle est terminé quand le livre sort dans le monde. C'est alors le livre qui va vivre ou mourir. Et ce qui arrive ensuite à l'auteur n'a plus aucun intérêt du point de vue du livre. Ce roman, cette nouvelle de Margaret Atwood, appelée « Le loup habillé en loup », a été traduit de l'américain par Patrick Dussolier. Voilà, merci pour votre attention.